Bonjour Eric, bonjour à tous. L'habit ne fait pas le moine, un dicton qui a pris tout son sens jeudi au tribunal de QC dans l'Allier. Mauvaise nouvelle du côté de la vaccination. Le fabricant AstraZeneca va réduire probablement ses livraisons de vaccins à l'Union européenne en raison d'un problème de production. Une nouvelle technologie pour tenter de limiter la transmission du Covid. Une entreprise française se spécialise dans les biotechnologies appliquées au textile. Et puis c'est une nouvelle étude de Météo France qui alerte sur le réchauffement climatique probable à l'horizon 2100.
Un mot sur les invités de cette matinale à 8h10. Patricia Martin, vous recevrez.
Elle, c'est la chanteuse Juliette Armanet. Lui, c'est le directeur musical des antennes de Radio France, Didier Varro, pour Hyper Nuit, un événement musical ce soir à partir de 21h. Sur France Inter notamment.
Et jusqu'à 3h du matin au moins, à 8h20, question politique ce matin, question à Guillaume Pelletier, le vice-président délégué du mouvement Les Républicains.
France Inter.
Lui, il portait la robe noire, certes, mais sa plaidoirie restait fantaisiste et ça n'a pas fait illusion très longtemps.
L'histoire se passe jeudi dernier au tribunal de QC dans l'Allier. Un homme qui se prétendait avocat et qui défendait deux victimes d'une escroquerie a été démasqué en pleine audience, puis interpellé et écroué. Le récit de Jérôme Osterman.
Sébastien Buisson a vite éveillé les soupçons des véritables professionnels de la justice. D'abord devant le tribunal de QC, où il se prenait en photo avec ses clients. Ce n'est pas vraiment dans les us et coutumes du métier d'avocat. Et ensuite, pendant l'audience, il était évident qu'il ne comprenait pas le vocabulaire de base de la justice. Dès lors, le substitut du procureur a fait quelques recherches sur Internet, alors que le faux avocat, comble de l'histoire, était en train de défendre des clients victimes d'escroquerie. Il est vite apparu qu'il n'appartient à aucun barreau en France et qu'il est surtout connu pour l'affaire dite des Nez Rouges. Il est soupçonné via l'association qu'il a montée à Limoges et qui intervient un peu partout en France pour divertir les enfants hospitalisés, d'avoir détourné 260 000 euros de dons. À partir de là, l'audience a tourné court, interrogé, il a d'abord dit être avocat à Paris, avant d'avouer, une fois en garde à vue, qu'il n'en est pas un. La justice cherche maintenant à savoir si c'était une première ou s'il a déjà pratiqué illégalement le métier d'avocat.
Jérôme Osterman, là aussi c'est insolite, il n'a que 13 ans, un jeune garçon a été contrôlé à 162 km à l'heure sur l'autoroute A1 dans la Somme. Trois autres de ses copains adolescents étaient à bord du véhicule, originaires de Lille, tous ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. En pleine polémique autour des baisses de livraison du vaccin Pfizer, le groupe britannique AstraZeneca indique que les livraisons de son vaccin en Europe, sous réserve de son approbation, seront moins importantes que prévu. En cause, une baisse de rendement sur un site de fabrication, Pierre Benazé.
Au premier trimestre, AstraZeneca ne livrera à l'Union européenne que 31 millions de doses au lieu des 80 millions prévus. Selon des chiffres évoqués par des responsables européens, c'est donc 61% de moins et c'est un sérieux revers pour les Européens. Ils misaient beaucoup sur l'arrivée de ce vaccin, conçu avec des universitaires d'Oxford, pour compenser les retards accusés par Pfizer. Retard que l'arrivée du vaccin Moderna ne suffise pas à combler. Le laboratoire anglo-suédois a annoncé ces nouvelles lors d'une réunion du comité pour la stratégie vaccinale qui réunit les laboratoires, la commission et les gouvernements. Ceux-ci ont fait part, je cite, de leur profonde insatisfaction. Façon diplomatique de dire que le ton a dû monter. La commission ajoute qu'elle va continuer à réclamer à AstraZeneca prévisibilité et stabilité des livraisons. Au total, la précommande européenne pour ce vaccin se monte à 400 millions de doses et l'Agence européenne des médicaments prévoit sa validation pour le 29 janvier. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
Pour se protéger face au virus, il va peut-être falloir penser à se tenir encore plus loin les uns des autres, très précisément à 2 mètres de distance. C'est en tout cas la recommandation du Haut Conseil pour la Santé publique. Or, il est une profession où il est bien difficile de respecter ce geste barrière de la distance physique. Ce sont les CRS assis les uns à côté des autres dans leur camion. Pas de dépistage systématique avant le retour dans leur famille. Emmanuel Leclerc a recueilli le témoignage d'un CRS de Sancerre.
Pour Romain, c'est le cas de trop, celui de ce collègue CRS, 2 jours après leur arrivée sur Bordeaux cette semaine.
Son épouse avait des symptômes de grippe, mais sans plus, donc lui est parti en déplacement avec nous.
Et au bout de 48 heures, le collègue a de la fièvre à son tour, mais ce n'est pas la grippe, c'est la Covid. On lui a juste dit d'aller s'installer chez lui, raconte Romain, comme à ses 4 camarades d'ailleurs, qui étaient dans la même camionnette. Mais Romain et bien d'autres CRS de la compagnie ont bu le café avec eux la veille. Ils étaient dans le même hôtel à leur arrivée à Bordeaux-Lac. Romain, qui a un mandat syndical à l'UNSA, a poussé un coup de gueule en interne, mais il a l'impression qu'on ne l'entend pas.
On demande aux gens qui sont extérieurs à nos frontières d'avoir un PCR à 72 heures. Donnons la même chose. Toutes les forces mobiles qui font plus de 15 jours, ben, il faut qu'ils puissent rentrer chez eux, au moins en se disant « je ne suis pas positif, je n'ai pas en danger ni mes enfants ». Ni ma femme, ni mes parents, ni mes amis, et qu'on puisse y vivre normalement.
Hier, selon nos informations, une autre compagnie de CRS a été dépistée, cette fois dans son intégralité. Preuve d'abord que les cas se multiplient, mais la direction centrale des CRS que nous avons pu joindre affirme qu'elle s'en remet au protocole actuel et aux décisions prises au cas par cas par les agences régionales de santé concernées.
Emmanuel Leclerc, il est clair qu'avec ce variant anglais beaucoup plus contagieux, peut-être plus mortel, selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, mais rien n'est confirmé à ce stade. Avec ce variant anglais, pas question de se relâcher sur les gestes barrières. Le gouvernement déconseille désormais le port de masques faits maison en tissu.
Oui, et peut-être que la biotechnologie pourrait aider à limiter la transmission de la Covid.
Une entreprise de Marseille, la société Pronim, a mis au point un actif qui entre en contact avec le virus, détruit sa membrane et bloque par là même le risque infectieux et la contagion quand on manipule le masque. 1 million de ces produits arrivent sur le marché la semaine prochaine. Olivier Martoc.
La société doit sa réputation à un principe actif développé contre les acariens qui protège les personnes allergiques. Validé par l'Agence européenne de santé il y a 2 ans. Depuis l'apparition du virus, ses équipes travaillent sur le SARS-CoV-2. Fabio Pilate de Freitas, ingénieur chimiste, en charge de la recherche chez Pronim.
On va venir imprégner au cœur des fibres différents types de textiles avec une solution qui contient des microcapsules qui renferment un ingrédient actif, un produit 100% minéral, donc naturel. Ce traitement-là, lui, va empêcher le virus de rester à la surface du masque pour éviter de contaminer d'autres surfaces, casser la chaîne de propagation donc du virus.
La période des essais est terminée, la phase d'homologation par l'Agence de santé européenne est en cours, mais elle a d'ores et déjà donné l'autorisation de vente. Natalia Djej, docteur en biologie, fondatrice de Pronim.
Avec le traitement Viral Stop, on constate qu'en 15 minutes, le virus meurt à la surface du textile comparé à un tissu non traité.
Le traitement Viral Stop est vendu à des industriels du textile et donc à des fabricants de masques. Pronim a aussi décidé d'en commercialiser sous sa propre marque à 10 euros. Mais leur durée de vie est longue car on n'a pas besoin de les laver chaque soir. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
La Belgique, elle, prend des décisions beaucoup plus radicales pour bloquer l'épidémie. La population aura, à partir de mercredi, l'interdiction de voyager hors de ses frontières jusqu'au 1er mars. Les Pays-Bas, restés longtemps un pays européen moins strict que les autres, enchaînent désormais les mesures drastiques. Après le port du masque obligatoire, puis la fermeture des bars et des restaurants, les voilà contraints à passer au couvre-feu à partir de ce soir 21h. En Espagne, la région de Madrid annonce de nouvelles restrictions. Elle avance son couvre-feu ainsi que l'horaire de fermeture de ses bars et de ses restaurants. Plus loin, à Hong Kong qui avait plutôt bien résisté jusque-là au Covid avec des mesures très strictes, notamment de quarantaine dans les cas de voyage, Hong Kong a dû se résoudre à confiner les 9000 personnes d'un quartier très pauvre et densément peuplé. Aux États-Unis, le procès en destitution de Donald Trump commencera le 8 février au Sénat. On connaît donc la date. L'ancien président américain est accusé d'avoir encouragé ses partisans à se lancer à l'assaut du Capitole il y a une semaine. Soulagement chez les lecteurs de l'équipe. Ils pourront dès ce matin retrouver leur quotidien sportif après 2 semaines de grève suivies par une majorité des salariés. Ils ont décidé de suspendre pour le moment leur mouvement en raison de quelques avancées obtenues.
Enfin, cette nouvelle étude de Météo France qui alerte sur le réchauffement probable à l'horizon 2100.
Et les températures pourraient grimper de 3 degrés par rapport à la fin du 19e siècle si les émissions de gaz à effet de serre restent faibles à modérer, ce qui est le cas en ce moment. Ces projections se basent sur une nouvelle méthode de calcul. Elles sont plus pessimistes que les projections actuelles du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, Célia Kiré.
La température augmentera de 2 degrés en 2100 si les émissions de gaz à effet de serre sont faibles. C'est un minimum. La hausse serait de 3 degrés avec des émissions faibles à modérées et elle pourrait être de 5 degrés avec de fortes émissions. Ces nouvelles projections tiennent compte des trajectoires de réchauffement passées depuis 1850 comme des simulations pour l'avenir. Aurélien Ribes est chercheur à Météo France.
scénario à plus 5 degrés demande d'émettre vraiment des très grandes quantités de gaz à effet de serre. Donc ça, on peut espérer que ce ne sera pas le scénario qui sera suivi. Par contre, ce qui est plus frappant de mon point de vue, c'est que par exemple, dans un scénario d'émission faible à modérée, on arrive déjà à plus 3 degrés en 2100. Et plus 3 degrés, c'est un chiffre qui implique des impacts du changement climatique qui sont forts sur de multiples activités. Si on veut rester en dessous du seuil de 2 degrés, il faudra réduire les émissions dans des proportions très très significatives.
Il semble donc quasi impossible de limiter la hausse du thermomètre à 1,5 degré. Autre résultat avancé par ce chercheur, l'homme est bien responsable du dérèglement climatique.
Si on s'intéresse cette fois-ci au climat du passé, on estime le réchauffement climatique total en 2020 déjà à plus 1,22 degré. On trouve que parmi ces 1,22 degrés, 1,15 degrés sont la conséquence des activités humaines.
Autrement dit, les facteurs naturels ne sont pas responsables du réchauffement de la planète.
Une étude à retrouver sur franceinter.fr.